Bonjour et bienvenue, 15h TU, 16h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
À la une de ce journal, l'alternance politique en Allemagne, vainqueur des législatives, le conservateur Friedrich Merz est le très probable prochain chancelier. Il va engager des consultations en vue de former un gouvernement de coalition. L'extrême droite allemande, elle, culmine à plus de 20% des voix à suivre dès le début du journal. Déjà 3 ans de guerre en Ukraine. À cette occasion, plusieurs dirigeants de pays alliés de Kiev sont sur place pour réaffirmer leur soutien. Emmanuel Macron, lui, est reçu à Washington où il doit faire des propositions d'action commune à Donald Trump. En France, début d'un procès exceptionnel, celui d'un ancien chirurgien. Il comparaît pour viol et agression sexuelle sur pas moins de 300 victimes. Vainqueur des élections législatives d'hier, le chef de la CDU, Friedrich Merz, a donc toutes les chances de devenir le prochain chancelier allemand. Il va lancer des discussions en vue de former un gouvernement de coalition en se tournant d'abord vers les sociaux-démocrates. Les deux partis disposent au final d'une courte majorité de sièges à la Chambre des députés, le Bundestag. Ce sera en tout cas sans l'extrême droite qui, elle, a doublé son score hier avec plus de 20% des voix, 20,8 précisément. L'AFD fait figure de grand favori du scrutin et vise encore plus haut. On écoute sa présidente Alice Weidel ce matin devant la presse.
L'AFD a enregistré une victoire historique. Nous avons obtenu notre meilleur score depuis notre création et nous nous en réjouissons. Nous avons doublé notre résultat en 3 ans. Nous sommes la deuxième force du pays derrière les chrétiens démocrates. Nous sommes prêts à accéder aux responsabilités. Il y a une forte majorité pour l'AFD et la CDU. Les électeurs souhaitent un gouvernement de droite. Et nous allons passer devant la CDU durant les 4 ans qui viennent. Cela va aller très vite. Les électeurs veulent un changement politique et nous allons le permettre. Nous allons remettre ce pays sur les rails car personne d'autre ne le fera.
Alice Weidel, ce matin devant la presse à Berlin. Elle est la chef de l'AFD, donc propos recueillis par Pascal Thibault. C'était il y a tout juste 3 ans. La Russie lançait une offensive qui a fait à ce jour des dizaines de milliers de victimes et amputé l'Ukraine de 20% de son territoire. En ce jour anniversaire, plusieurs dirigeants étrangers sont à Kiev pour affirmer leur soutien. Parmi d'autres, la présidente de la Commission européenne, les dirigeants du Canada, des pays baltes, scandinaves et de l'Espagne. À ce sommet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à une paix réelle et durable en 2025. Emmanuel Macron, lui, est reçu ce soir à Washington par Donald Trump. Le président français va lui présenter des propositions d'action pour conjurer la menace russe en Europe et garantir une paix durable acceptable par Kiev. Le ballet diplomatique auquel on assiste en ce jour anniversaire n'empêche pas les armes de parler sans répit parmi les cibles quotidiennes des Russes. La capitale Kiev, où des millions d'habitants tentent de vivre aussi normalement que possible dans une situation qui ne l'est pas. Emmanuel Chaz est notre correspondante dans la capitale ukrainienne.
Comme tous les soirs ou presque, c'est au son des bombardements que l'on s'endort à Kiev. Ces explosions sont la défense antiaérienne qui cherche à abattre les drones russes lancés contre l'Ukraine par dizaines, voire centaines chaque nuit à travers le pays. Pourtant, la vie continue à Kiev comme ailleurs en Ukraine. Ici, par exemple, le métro fonctionne. On l'emprunte pour aller au travail, pour voir ses amis, ou encore comme abri lors des attaques aériennes. Svitlana, une prof de maths, sort justement d'une station après une alerte. Elle s'inquiète pour l'Ukraine depuis le revirement politique de Washington.
Je pense que tout est très compliqué. J'aimerais espérer le meilleur, mais je vais juste devoir y croire. C'est nécessaire, mais je ne suis pas politicienne.
Plus loin, nous croisons des étudiantes en psychologie. En plus du stress lié à leurs études, elles sont épuisées par les alertes aériennes. Et à cela s'ajoute le stress des déclarations de Donald Trump au sujet de l'Ukraine, comme nous le confie Lera.
Je peux dire que c'est angoissant, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont prendre une décision? Est-ce que tout sera enfin terminé? J'aimerais que ce soit le cas, car c'est vraiment effrayant de vivre en Ukraine en ce moment. Et les alertes aériennes en permanence, c'est vraiment très, très déprimant.
Si les habitants de la capitale sont déprimés, ils vivent toutefois dans un environnement bien plus protégé que des villes plus proches du front. Même si le danger des missiles et des drones s'étend à l'ensemble du pays et que Moscou ne montre aucun signe d'apaisement, Emmanuel Chaz, qui est RFI.
À propos encore de l'Ukraine, son gouvernement a fait savoir aujourd'hui qu'il était en phase finale de négociation avec les États-Unis sur un accord. Accord qui donnerait à Washington l'accès aux minerais ukrainiens en échange d'une protection.
Radio France Internationale.
Hospitalisé à Rome pour une infection des deux poumons, le pape François a passé une bonne nuit et il se repose. Mais le dernier communiqué du Vatican ajoute que son état de santé demeure critique. Cela fait 10 jours que le souverain pontife, 88 ans, est soigné à l'hôpital Gemelli de Rome. Dans l'actualité économique du jour, le lancement par le gouvernement indonésien d'un fonds souverain pour dynamiser la croissance de l'archipel. Doté pour commencer d'un budget de 20 milliards de dollars, ce fonds a vocation à grandir rapidement à Agnieszka.
Après le premier fonds souverain, lancé en 2021, place au deuxième plan d'investissement de ce type en Indonésie. Le fonds baptisé Danantara Indonesia vise à terme à réunir 900 milliards de dollars. L'objectif affiché du président Prabowo Subianto est de disposer des liquidités nécessaires pour stimuler la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est. Au pouvoir depuis octobre, le président s'est engagé à porter la croissance du PIB de l'archipel de 5% actuellement à 8%. Afin de financer ses promesses électorales, d'énormes coupes budgétaires ont été faites dans les ministères, ce qui a déclenché des manifestations. C'est le ministre de l'Investissement qui devrait diriger le fonds. Il en rendra compte directement au président. Cela inquiète les ONG. L'Indonésie devrait pourtant créer un mécanisme de contrôle pour surveiller d'éventuels abus, estime Human Rights Watch, dans un pays connu, selon les experts, pour sa lourdeur administrative et sa corruption.
Agnieszka Kumor du service économie de la rédaction. En France, début aujourd'hui d'un procès exceptionnel en Bretagne, dans le Nord-Ouest. Le procès de Joël Le Skouarnec, il s'est ouvert à Vannes devant la cour criminelle du Morbihan. Ce chirurgien à la retraite comparé pour viol et agression sexuelle sur pas moins de 300 victimes, 300 jeunes patients hospitalisés entre 1989 et 2014. Sans doute la plus grande affaire pédocriminelle jamais jugée en France. Son procès doit se tenir jusqu'au mois de juin. À Marseille, fausse alerte aux explosifs ce matin. Le consulat général de Russie a été visé par des jets de bouteilles, suivis de détonations sans faire de blessés ni même de dégâts. Une source policière avait initialement fait état d'engins explosifs de fabrication artisanale. Le quartier du consulat, situé dans le 8e arrondissement de Marseille, a été entièrement bouclé par les forces de l'ordre. À Paris, le défilé des personnalités politiques se poursuit au salon de l'agriculture. Après, entre autres, Emmanuel Macron et Jordan Bardella, aujourd'hui, c'est le tour de François Bayrou, un Premier ministre qui a un lien particulier avec le monde agricole. Reportage au salon de Valérie Gasse.
La première image de François Bayrou au salon de l'agriculture, c'est avec un agneau dans les bras. Rien de totalement inhabituel pour un Premier ministre issu du monde rural. Son père était agriculteur dans le Béarn, là où il habite toujours. Et François Bayrou cultive cette marque de fabrique.
Ne croyez pas que ce soit la première fois que je touche une vache.
Avec Houpette, la vache égérie du salon, le chef du gouvernement a fait mine de lui laisser la vedette devant les photographes.
Mais franchement, celle qui est belle, c'est elle.
Elle est magnifique.
Et en goûtant du Beaufort, François Bayrou n'a pas manqué de rappeler qu'il vient des Pyrénées.
J'aime d'abord le fromage des Pyrénées.
Oui.
Je suis très amateur du
voilà, vous en avez, Beaufort, Abondance, Reblochon.
Au-delà du folklore habituel, le Premier ministre était là pour dire aux syndicats agricoles que le gouvernement ne les oublie pas.
On a rencontré avec toutes les organisations agricoles un climat très positif. Même si tous les problèmes ne sont pas résolus, on en est loin, on a à résoudre les problèmes des prix, du revenu, qui est le problème le plus important.
Seule ombre dans cette visite, quand il a été interrogé sur une plainte déposée contre lui dans l'affaire Betarame. François Bayrou évacue la polémique et continue sa visite. Valérie Gasse avec Diego Tenorio au Salon de l'Agriculture.
Et lors de cette visite, François Bayrou s'est par ailleurs exprimé sur les relations franco-algériennes. Il a jugé inacceptable que l'Algérie ait refusé 10 fois de reprendre l'assassin de Mulhouse, comme il l'a appelé, avant que cet homme commette une attaque mortelle au couteau, samedi dans cette ville de l'Est de la France. L'assaillant, interpellé après avoir fait 1 mort et 5 blessés, était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Un mot enfin de tennis avec le premier tour du tournoi ATP 500 de Dubaï à suivre. Cet après-midi, l'entrée en lice du français Giovanni Pecci Péricard. RFI, 16h10, ici à Paris, une heure de moins en temps universel.